Bien, merci à vous quatre pour l'ouverture de cette journée. Donc, moi, je suis Adélaïde Boulanger, je suis chef du service lecture handicap à la BPI depuis quelques semaines maintenant et je suis aussi ravie de vous accueillir, que ce soit ici ou en ligne. Alors, nous allons poursuivre la journée par la première table ronde portant sur l'accompagnement des publics en situation de handicap vers les collections, les services et l'action culturelle. Donc, Ophélie Stéphan, Anne-Christine Collet, Isabelle Bertha et Eleonore Clavreul, pardon, sont déjà sur scène, donc c'est parfait. Merci.
Et là, bonjour à tous, on est dans les temps et on va pouvoir commencer cette première table ronde que j'ai la joie d'animer. Enfin, c'est surtout nos invités qui vont l'animer. Donc on est très heureux de la composition de cette table ronde puisqu'on a une représentante des bibliothèques municipales, une représentante d'une bibliothèque départementale et une représentante des bibliothèques universitaires. Donc on est assez certain d'avoir un éventail assez large d'actions, de réflexions, de collections, d'exemples qui vont pouvoir se compléter les uns les autres. Alors je voulais juste, en fait, parce que je pense que en général on est mieux placé pour se présenter soi-même que de présenter par quelqu'un d'autre, donc je vais directement laisser la parole à Isabelle Bertha d'Ille-et-Vilaine, qui va chacune de mes invités, de nos invités, va présenter son environnement, son public, les spécificités de son poste, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet à travers les collections, les services et les actions culturelles pour les publics en situation de handicap. Isabelle, je te laisse la parole.
Merci. Alors, je ne sais pas si je dois me rapprocher. Vous m'entendez bien ? Super. Donc, effectivement, je travaille... Oui, dis-moi.
Non, bah oui, c'est très bien.
Effectivement, je travaille donc à la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine, où je suis chargée de mission accessibilité et public. C'est-à-dire que je coordonne les collections, les dispositifs et les ressources autour des publics empêchés et éloignés. Le périmètre de mon poste couvre aussi l'innovation et la participation des habitants, et en matière d'innovation, spécifiquement autour des publics cibles du département, la petite enfance et les ados. Mais il n'en sera pas question aujourd'hui. Et j'ai la chance de travailler sur ces questions avec quatre collègues, dont trois qui sont spécifiquement sur les publics éloignés et les publics empêchés. Je les cite parce qu'elles font un travail formidable et qu'elles nous écoutent, je crois, ce matin. Donc Virginie Lescope, Rosine Gandon et Anne-Laure Potvin. Pour commencer, je voulais aussi, dans cette présentation, attirer votre attention sur la position un peu spécifique des médiathèques départementales. Alors, non pas en général, mais aussi peut-être par rapport à ce qu'on va évoquer sur cette table ronde. Parce que, en tant que bibliothèque départementale, on ne s'adresse pas directement aux habitants et au public. Et que donc, j'aurais sûrement à aborder la question de la médiation de manière un petit peu différente. Nous, on est là pour accompagner, pour aider, pour intervenir en appui des équipes des bibliothèques sur le département, comme la plupart des bibliothèques départementales, même si certaines maintenant ont des services ouverts aussi directement au public. Et donc spécifiquement dans le champ du handicap, l'objectif c'est que les bibliothèques comprennent évidemment les enjeux de la prise en compte des publics en situation de handicap, mais aussi ceux de la médiation, comme on l'a déjà dit lors des discours. Donc à cette fin, nous à la médiathèque départementale, on forme, on sensibilise, on outille, on répond aussi aux questions des bibliothèques et des réseaux du département, de manière à ce que l'accessibilité ne soit plus un sujet à part, mais un réflexe professionnel, avec un objectif qui est clairement avoué, c'est de pérenniser les actions et les dispositifs accessibles. Alors, pour illustrer... Ah ben merci, voilà, très bien. Pour illustrer ce propos d'introduction, donc je voulais juste partager avec vous deux dispositifs, deux outils. Le premier, donc, c'est une ressource professionnelle qu'on a mis en place en 2021 à destination des bibliothécaires et du département, mais qui, du coup, étant donné que c'est accessible sur notre portail, est accessible à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on a appelé un kit accessibilité pour plus d'inclusion en bibliothèque. C'est tout simplement... des articles dédiés sur le portail qui sont liés les uns aux autres, qui à ce jour composent ou comptent 24 fiches. des fiches qu'on a voulu, enfin qu'on veut, puisque c'est un travail un peu un work in progress, qu'on veut synthétique, mais aussi extrêmement pratique, qui permettent une première façon, un premier niveau pour aborder une question autour de l'accessibilité, avec également des ressources pour aller plus loin. On a construit le kit autour, pour l'instant, mais ça pourra aussi évoluer au fil des années, de quatre grandes questions, quatre grandes thématiques. La première, parce qu'on était beaucoup sollicité sur cette question, mais aussi qu'on aimerait l'être encore plus, autour des schémas d'accessibilité. La deuxième, autour des recommandations, mais aussi des obligations légales en matière d'accessibilité en bibliothèque. On a aussi une partie sur l'offre accessible qui recoupe à la fois les collections, mais aussi les services. Et puis une dernière sur la communication et la médiation accessible en bibliothèque. Donc voilà, pour faire très rapidement. Et puis l'autre... dispositif qui est inscrit à notre plan de formation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les médiathèques départementales proposent des formations en parallèle de ce qui peut être proposé par les CRFCB justement. Et dans ces formats, on a des rencontres, c'est-à-dire des matinées dédiées à l'accessibilité en médiathèque qui ont lieu 3 fois par an pour ce qui nous concerne et qui, depuis 2022, ont élargi le champ de réflexion au-delà des publics empêchés, aussi aux publics éloignés, puisqu'on voit bien hein, lors de toutes ces tables rondes, de toutes ces journées d'études, que les questionnements se recoupent pour tous ces publics. Voilà. Je ne prends pas plus de temps, c'est déjà ça.
Merci beaucoup. On a déjà envie d'explorer ces deux pages. Est-ce que à Lyon, à la Marie-Christine, tu peux nous présenter ton contexte professionnel?
Oui. Alors, bonjour, Anne-Christine Collet. Donc, je travaille à la Bibliothèque universitaire de Lyon 1, où j'ai plusieurs casquettes. Je suis responsable qualité, puisque la bibliothèque est certifiée ISO 9001 depuis 8 ans maintenant. Je suis responsable de la formation continue des personnels et également référente handicap. Toutes ces missions étant extrêmement liées les unes aux autres, parce qu'une un système qualité s'appuie sur les compétences des personnels, d'où la formation continue, et que la réflexion sur l'accueil des étudiants en situation de handicap pour qu'ils bénéficient complètement des services de la bibliothèque passe également par de la formation. Donc la boucle est bouclée. Les spécificités d'une bibliothèque universitaire en ce qui concerne l'accueil des étudiants en situation de handicap, Odile Conta l'a précisé, c'est que on travaille a priori avec les missions handicap de nos universités qui vont nous orienter des étudiants, qui vont renvoyer des étudiants vers nos services. Sauf que ce ne seront que les étudiants qui se seront déclarés auprès de la mission handicap, donc une proportion réduite par rapport à la situation réelle que les étudiants rencontrent. Et ce ne seront parmi ces étudiants-là que ceux qui voudront bénéficier des services de la bibliothèque. Donc déjà, quelque chose d'un peu particulier en bibliothèque universitaire. Le thème de cette table ronde, c'est accueil universel et médiation spécifique. Alors, j'ai réfléchi à la notion d'universel dans une bibliothèque universitaire. Bien évidemment, une bibliothèque universitaire est une bibliothèque publique, ouverte à tous. Mais l'universel est déjà un petit peu circonscrit par la nature des collections et des publics que l'on va desservir. C'est-à-dire qu'on est la bibliothèque d'un établissement d'enseignement supérieur avec des collections qui vont être adaptées au cursus. L'université Lyon 1 est une université scientifique, donc dominante de sciences exactes, médecine et éducation. On n'aura pas de collection juridique, on n'aura pas de collection littéraire, sinon à la marge. Donc c'est un universel qui est quand même un petit peu thématique. De la même façon, les services, les collections sont organisées dans une bibliothèque pour ce public cible d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, de doctorants, mais on reste dans un périmètre qui est universel, mais borné néanmoins. Borné au sens borne, hein, pas... voilà. Donc, une fois ceci posé, tous ces services-là sont accessibles à l'ensemble de la population. On reste une bibliothèque publique, mais l'ouverture à l'universel ne sera que dans ce cadre de mission et de cadre de collection déjà proposé. Ce qui ne m'empêche pas de réfléchir à l'adaptation de ces services. Enfin, ce que je peux aussi indiquer par rapport à ce que je disais en introduction sur les étudiants accompagnés ou pas par la mission handicap de l'université, c'est qu'on se rend bien compte que parmi la population étudiante et toutes les enquêtes menées ces deux dernières années, et notamment, ça devient un peu quelque chose que l'on répète, mais néanmoins depuis la crise du Covid, toutes les enquêtes qui ont pu être faites à ce moment-là montre quand même une situation extrêmement difficile pour la population étudiante, avec une grande précarité. Alors précarité financière, c'est un mystère pour personne, mais également une précarité psychologique très très forte. Et on a donc en face de nous une population étudiante qui n'aura pas forcément la reconnaissance que la mission handicap pourra donner avec une consultation avec la médecine étudiante, etc. Mais des étudiants qui vont avoir des besoins qui vont être très très proches d'étudiants en situation de handicap sans être forcément accompagnés vraiment par l'université. Donc c'est surtout ça l'enjeu chez nous, ça va être d'adapter des services à une population nombreuse qui peut parfois être en grande difficulté, des difficultés financières, des difficultés psychologiques qui vont se rapprocher de situations de handicap.
Merci beaucoup. Et pour compléter, l'année dernière, tu nous avais présenté l'étude sur la santé mentale des étudiants. Donc,
J'en reparlerai un petit peu.
Ah d'accord, très bien, parfait. Et nous nous rapprochons de Paris. Nous sommes à la bibliothèque municipale de Bobigny.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Ophélie Stéphane, je suis responsable du secteur jeunesse dans les médiathèques de Bobigny. Alors actuellement, on est en transition bibliothèque-médiathèque, on change de nom. Donc si je dis bibliothèque ou médiathèque, non, ce n'est pas rigueur, c'est la même chose. Bobigny se trouve dans le 93, il y a environ 55 000 habitants. Et notre réseau de lecture publique se compose de trois équipements. Nous avons la médiathèque Elsa Triolet qui se trouve au centre-ville, la médiathèque de quartier Émile Ayot et le bibliobus qui dessert les autres quartiers. Donc nous sommes une trentaine d'agents et nous n'avons pas de référent pour le moment, de référent handicap ou accessibilité. Et donc là, à cette table ronde, je vais vous présenter diverses actions et médiations qu'on a mis en place, plus secteur jeunesse, mais j'aborderai un peu le secteur adulte. Merci.
Eh ben, en fait, je vais te laisser la parole parce que donc on va chacune de nos intervenantes va présenter un peu les collections pensées pour ces différents publics et donc je te laisse la parole pour les collections à Bobigny.
Oui, donc comme vous pouvez le voir sur la photo, nous avons mis en place en section jeunesse un fonds qui s'appelle Lecture adaptée. Donc ce fonds a été mis en place suite à des réflexions depuis janvier 2022. En fait, suite à des demandes de parents qui cherchaient des livres 10, donc qui comprennent la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie. Donc voilà, ils cherchaient des livres 10 pour des enfants porteurs de troubles du langage écrit. Les troubles 10 ne sont pas un handicap, mais ça peut être handicapant. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus avec l'équipe jeunesse. Et nous avions aussi pas mal de ressources pour des enfants malvoyants et non-voyants, donc des livres tactiles et ou en braille. Donc avec l'équipe jeunesse, on a réfléchi à comment mettre ces ressources en avant. On a contacté d'autres structures, comme d'autres bibliothèques du 93, mais aussi Marguerite Dumas à Paris. Et on a contacté Livres et Lectures en Bretagne, qui est un établissement qui a initié le « Facile à lire », mais qui est aussi reconnu pour sa mise en place des collections 10. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on allait partir sur le fonds facile à lire ? Mais en fait, ce fonds est destiné en particulier pour les personnes qui ont des difficultés avec le livre ou la lecture. Et le public jeunesse, hormis les 10, n'avait pas forcément de problème. Une personne, enfin, par exemple, un excusez-moi... Une personne malvoyante n'a pas de problème de lecture. C'est juste que les livres ne sont pas adaptés à elle. Donc, on a réfléchi, on a essayé de chercher un terme, un intitulé pour ce fonds, pour éviter la stigmatisation des usagers. Parce que, voilà, est-ce que mettre ce fonds au milieu des autres fonds, c'était une bonne idée ? Est-ce qu'un documentaire en gros caractère se serait retrouvé plus facilement au milieu des autres documentaires de la section jeunesse ? Donc, on s'est posé la question, on s'est dit que non. On a décidé de les mettre à part. Donc ça peut paraître stigmatisant, mais au final ça permet aux personnes concernées de se retrouver plus facilement et à nous bibliothécaires de faire une meilleure médiation. Donc on a choisi donc le titre lecture adaptée. On avait pensé à lire autrement aussi, mais c'est les bibliothèques de Paris qui l'ont utilisé. Voilà. Donc le fonds est constitué de romans, de premiers romans, de documents, de textes audio. On aimerait des BD, mais l'édition n'est pas trop développée encore. Tous ces livres sont soit adaptés pour les lecteurs 10, donc avec une police de lecture adaptée, soit en gros caractère, soit en braille, soit en tactile, soit en audio. Donc on utilise pour le fond, on choisit des éditions donc, comme la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, les éditions atypiques, Voir de près, La poule qui pond. Et aussi les éditeurs scolaires sont très développés dans ce secteur. Par exemple, je pense à Hachette ou Nathan qui a une collection qui s'appelle Discool. Voilà, c'est très intéressant. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, les ouvrages sont disposés de face parce que c'est plus simple pour des lecteurs 10 de s'y retrouver plutôt que d'avoir une rangée de livres serrés. C'est plus simple pour lire le titre. Le meuble est situé de façon à être très visible. En fait, il est dans la section jeunesse, il est à côté de la banque de prêt. C'est comme si c'était un présentoir à nouveautés, parce que les gens vont directement dessus, et même des gens qui ne sont pas concernés par ces ouvrages prennent les livres. Donc là, on fait de la médiation, et ça fonctionne aussi par le bouche à oreille. Par exemple, un parent va venir nous voir et nous dire « Oui, j'ai entendu dire que vous aviez un fond 10, mon enfant est dyslexique, est-ce que vous auriez des livres à me conseiller ?» Donc cet emplacement est vraiment pratique parce que voilà, il facilite la médiation et l'échange avec les bibliothécaires et les usagers. Et donc à l'avenir, nous aimerions développer des ressources en LSF parce qu'actuellement nous avons des livres, mais ils sont dans le fonds documentaire en linguistique. Et puis des livres aussi pour des enfants porteurs de handicap cognitif. L'achat de ces ouvrages se fait l'objet de demandes au CNL, au Centre National du Livre, qui s'appelle, cette subvention s'appelle les publics empêchés. Et donc, le groupe qui travaille sur ce fonds est constitué de 5 agents. Et nous faisons de la veille et lors des réunions, nous présentons les livres aux autres collègues.
Merci beaucoup. Le contraste va être saisissant avec ce qui se passe dans une bibliothèque universitaire, je pense.
C'est un contraste, c'est une continuité. comme je le disais en introduction, les collections d'une bibliothèque universitaire sont déterminées par les cursus, aussi bien en termes de thématiques, de disciplines, que de niveau académique des collections, avec des collections donc qui doivent répondre aux besoins des étudiants donc depuis la première année de licence jusqu'aux besoins des doctorants en fin du cursus universitaire et bien évidemment des enseignants chercheurs. Du coup, les collections académiques, elles sont assez classiques, c'est des manuels. Ce sont des ouvrages qui vont être prescrits par les enseignants, des thèses, des mémoires. On reste sur des choses qui sont quand même beaucoup moins fantaisie, au bon sens du terme, que ce qu'on va pouvoir trouver en bibliothèque municipale. Et dans tous les cas, le contenu doit répondre assez strictement aux besoins des formations. Donc la marge de choix en fait des collections pour constituer le fonds va être relativement réduite et ça va plutôt être sur les questions de l'accès aux collections qu'il va falloir qu'on travaille. Néanmoins, quelques petits points particuliers. On peut avoir ponctuellement, et là on y répond toujours favorablement, des demandes spécifiques de constitution, de collection, notamment sur le handicap. C'est une demande qu'on a eue il y a quelques semaines, qui a émergé puisque l'Université Lyon 1 est en convention avec le projet ATP Friendly, qui s'appelait auparavant Aspi Friendly, s'il y en a qui n'ont pas encore suivi le changement de nom, et qui est donc une... Alors je ne sais jamais quel est exactement le statut de ce projet, mais dans tous les cas, à l'initiative d'étudiants autistes pour favoriser leur accès aux études supérieures, à la recherche d'emploi. Enfin, il y a vraiment un gros projet qui intervient beaucoup dans l'université. Et donc, une enseignante de l'université nous a sollicité pour mettre en place un fonds sur l'autisme. Alors, des collections sur l'autisme, on en a beaucoup dans nos bibliothèques. Je vous parlais d'un secteur santé, d'un secteur éducation. Dans les deux bibliothèques, c'est des collections qu'on a assez développées, vu plutôt du point de vue de la médecine en collection de santé et plutôt de l'éducation des enfants en situation de handicap côté éducation. Là, on a eu une toute autre demande qui était plutôt autour du témoignage, de choses qui vont être plutôt sur de l'ordre du vécu, qui ne sont pas forcément au cœur de notre politique documentaire, sauf dans la bibliothèque de loisirs qu'on a dans la bibliothèque qui est en photo, là, dans la bibliothèque de sciences sur le campus de la Doua. Donc voilà, on peut être sollicité et là, bien évidemment, on répond à ce genre de demande. Une autre question qui peut se poser aussi dans l'enseignement supérieur, qui n'est à ma connaissance vraiment traitée par aucune bibliothèque, c'est la notion de facile à lire et à comprendre. Quand on parle de collection Falk, on va penser aux enfants. Ou à des personnes qui vont avoir des troubles de l'apprentissage, mais on va pas forcément penser au public universitaire. Or, les publics dyslexiques, notamment, représentent la plus grosse part des étudiants porteurs d'un handicap dans l'enseignement supérieur, et ils arrêtent pas d'être dyslexiques quand ils rentrent à l'université. Donc il y a une vraie question sur le facile à lire et à comprendre dans l'université. On est à la fois sur un niveau d'exigence académique en termes de contenu, et en même temps il y a une vraie réflexion à se poser sur ce que pourraient être des documents faciles à lire. Moi c'est un chantier que j'ai dans un coin de ma tête, que j'ai jamais encore lancé avec les collègues responsables documentaires, mais il y a sûrement des choses à faire pour aider les étudiants à se repérer dans les collections. Alors, ça va pas forcément être du facile à lire en termes du contenu intellectuel, mais du facile à lire dans la mise en page d'un document. Alors, le facile à lire va être facilité aussi par l'accès numérique aux collections, mais c'est pas toutes les collections qui sont en version numérique. Mais voilà, il y a quand même, je pense, quelque chose à creuser dans l'enseignement supérieur, dans les BU, sur cette notion de facile à lire. Qu'est-ce que ça veut dire, le facile à lire, pour des étudiants? Donc, sur la constitution des collections, on va avoir peu de marge. En revanche, on a les mêmes interrogations et les mêmes actions que l'ensemble des bibliothèques sur l'accès aux collections, la simplification de la signalisation, la simplification des cotes, la simplification de ce genre de choses. Je vous rassure, ça arrive aussi jusqu'au BU. La question aussi de l'adaptation de l'accès aux prêts. Pareil, c'est un secret pour personne de dire que il y a moins de prêts en bibliothèque universitaire ces dernières années. En revanche, une consultation sur place qui augmente avec des horaires d'ouverture très très larges. Donc prêtons largement, prêtons longtemps, prêtons beaucoup. Il y a vraiment aucune raison d'avoir des restrictions sur la durée du prêt, le renouvellement du prêt, le nombre de documents en prêt. C'est vraiment pas un souci. Pour le moment, ça se fait encore sur demande dans l'établissement où je suis. Ça, c'est pas aussi automatique que ça, mais bon, ça fait partie des adaptations possibles. Autre chose qui facilite quand même grandement l'accès aux collections des étudiants en situation de handicap, ce sont les ressources électroniques, puisque il peut y avoir en lecture sur écran des adaptations, des grossissements, de la synthèse vocale. Donc là, on est quand même vraiment sur une amélioration. Alors, on n'est pas encore sur le tout accessible. Là, on est loin du compte, mais il y a quand même une amélioration assez grande de l'accessibilité, avec en plus une portabilité sur différents outils, téléphone, tablette, etc. Et on le voit bien dans la formation que l'on peut dispenser, par exemple, à des étudiants qui sont déficients visuels et qui se préparent au métier de masseur kinésithérapeute, que leurs outils personnels, donc tablette, synthèse vocale, téléphone, enfin ils ont chacun quelque chose de différent, ce qui est assez pratique en formation, leur permet d'accéder à majoritairement aux collections. L'Université Lyon 1 a également l'exception au droit d'auteur donc de niveau 1, mais je pense que tous les établissements qui bénéficient de cette habilitation feront le constat que le service n'est pas assez connu, qu'il n'est connu que de quelques personnes déficientes visuelles, mais pas du tout de toutes les autres bénéficiaires possibles des adaptations. Et très rapidement, dans les autres possibilités d'adaptation qu'on va mettre en place, alors que je n'ai pas encore testé, mais je reviendrai vous en parler l'année prochaine, on va proposer aux étudiants le prêt de stylos scanner qui leur permettra de numériser des documents ou d'avoir une lecture audio immédiate ou... Je crois que ce qui va encore le plus intéresser les étudiants, c'est de la traduction simultanée. Parce que parfois, les étudiants, face à de l'anglais qu'ils lisent dans le cadre de leurs études, sont un petit peu bloqués. Mais voilà, déjà la lecture audio, pouvoir venir à la bibliothèque, prendre un livre, emprunter un stylo scanner et avoir immédiatement une traduction audio, je pense que ça peut rendre service à pas mal d'étudiants. Avec la limite, dans une bibliothèque scientifique, qu'on a des documents qui ont des formules mathématiques, des schémas, des choses comme ça, et il faut qu'on teste de voir comment ça va être rendu en lecture audio. Donc voilà en gros sur les collections ce que je pouvais présenter.
Eh ben merci beaucoup, les collections et les perspectives. Donc nous revenons en Ille-et-Vilaine. Je te laisse me dire à chaque fois que tu veux que je clique sur un lien. D'accord, je veux bien.
Surtout pour le premier point que j'aborde, il n'y a pas le lien, pas tout de suite. Donc, à la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine, pour que les bibliothèques accompagnent leur public en situation de handicap vers les collections, on propose différentes ressources et dispositifs. D'abord, j'allais dire évidemment, mais c'est peut-être pas si évident que ça, des collections adaptées dans un fonds qu'on a appelé, comme le réseau des bibliothèques de Paris, a priori, lire autrement. On a à peu près presque 5000 documents empruntables avec une diversité d'adaptations assez importante du fait que ce fonds-là est développé depuis de très nombreuses années. Ça va du gros caractère au livre audio MP3 ou DAISY, du braille jeunesse, des albums tactiles illustrés, des albums sans texte, des livres-jeux, des pictogrammes, de la LSF, des livres sur les habilités sociales, des livres pour les 10, des livres faciles à lire et à comprendre, autant et sûrement pas de manière exhaustive d'adaptations qui vont pouvoir répondre, comme on l'a déjà dit, aux besoins spécifiques des personnes. On a également, mais parce que les médiathèques départementales développent aussi des collections d'outils d'animation, on a des outils de sensibilisation à la fois au handicap et aussi aux collections adaptées. Donc là, tu peux cliquer sur le premier lien. Ah oui, je ne l'ai pas encore dit, mais la plupart des choses qu'on vous montre et que je partage avec vous aujourd'hui donc, sont issues de notre site qu'on appelle Portail, sauf une, mais je le préciserai du coup à ce moment-là. Donc là, tu peux passer, il y a deux pages, alors je crois que le lien là que j'ai fait c'est la page 2, donc si tu peux revenir en arrière. Et là spécifiquement, dans les outils d'animation, on a des malles, lire autrement, on a la malle lire autrement visuel, la malle lire autrement auditif, la malle lire autrement 10, et un tout nouvel outil, alors c'est pas encore, tu peux, non, ça reste sur le même article, pardon. Et un tout nouvel outil qui s'appelle Sensibilisation Handicap, là qu'on voit en haut à droite. Dans ces outils-là, en fait, on propose essentiellement des collections adaptées, mais aussi quelques outils ou appareils spécifiques, comme effectivement des stylos de lecture, des appareils DAISY, etc. Et dans la malsensibilisation au handicap, on a aussi beaucoup de jeux qui vont pouvoir, dans le cadre de médiation avec le grand public, en fait, pouvoir mettre les gens dans des situations de handicap et leur permettre de se sensibiliser à cette question. On a, sur la question des collections, je voulais aussi partager tout ce que l'on fait autour du facile à lire, parce qu'on a été précurseur en 2014 aux côtés de Livre et Lecture en Bretagne, que tu as déjà évoqué, dans le soutien à la démarche facile à lire en bibliothèque. Alors je rappelle peut-être, je ne suis pas sûre que ce soit une nécessité, mais je le fais quand même, que le facile à lire s'adresse prioritairement au public en situation d'illettrisme, aux personnes en apprentissage du français, donc souvent allophones, mais que ça peut aussi toucher les personnes en situation de handicap mental, psychique, et les personnes qui connaissent des troubles 10, des troubles des apprentissages. Et donc là, tu peux cliquer sur, je crois que j'ai un lien sur notre article sur la manière dont on accompagne les bibliothèques du département dans la démarche facile à lire. Voilà, donc là, la première infographie qu'on voit, c'est tout ce que nous proposons en matière d'accompagnement, donc des formations régulières, un comité de lecture qui nous permet de sélectionner, de repérer des collections et d'avoir un fonds facile à lire qui est aujourd'hui à peu près de 3000 documents, mais qui nous permet aussi d'éditer une sélection annuelle. On a donc des fonds qui sont empruntables dans nos quatre antennes. On a un guide pratique qui, sans notre accompagnement direct, permet aux bibliothèques de comprendre la démarche et de la mettre en œuvre. On a des outils d'animation sur le facile à lire. On prête un espace facile à lire, donc qui comporte à la fois du mobilier mais aussi des collections, et les bibliothèques qui l'empruntent peuvent tester à la fois la démarche mais aussi l'endroit dans la médiathèque où cet espace peut être installé et comment les publics vont pouvoir s'en emparer et comment ils vont pouvoir tisser localement des partenariats pour le faire vivre. Parce qu'on le sait, en fait, en règle générale, pour amener nos publics à des collections et des services spécifiques, mais très spécifiquement dans le facile à lire, la médiation est essentielle pour accompagner les personnes à s'approprier le contenu des livres quand elles n'en ont pas l'autonomie suffisante. Et donc, pour faciliter la participation, donc là, ça doit être le lien suivant, je crois. C'est ça. Donc, pour faciliter la participation des 34 bibliothèques du département qui ont participé à l'édition 2023 du prix Facile à lire Bretagne, puisqu'on co-organise avec Livre et Lecture en Bretagne et les trois autres bibliothèques départementales de la région, plus deux organismes de formation, un prix Facile à lire depuis 2017 qui a lieu tous les deux ans. Et lors du bilan de l'édition 2021, les médiathèques du département d'Ille-et-Vilaine nous avaient fait remonter qu'elles étaient bien conscientes que pour accompagner les 8 titres de la sélection du prix, il fallait qu'elles mettent en place des médiations, comme en règle générale d'ailleurs dans la démarche au quotidien, facile à lire, mais qu'elles n'en avaient pas le temps ou très peu. Donc on a mené un travail en mode collaboratif, puisqu'on l'a fait avec des bibliothèques du département. Donc tu peux effectivement cliquer sur le lien vers le livret qui est là, voilà, même sur directement le Calaméo, mais voilà. Donc on a mené en amont de l'édition 2023 du prix un travail pour aboutir à des fiches de médiation clés en main pour chacun des titres. Donc si tu, voilà, là par exemple tu peux t'arrêter sur une des fiches. Alors par contre je suis pas certaine que ce soit tout à fait lisible pour la salle. Peut-être que tu peux mettre en plein écran en haut à droite. On verra peut-être juste le carré qui est là. Peut-être on verra un peu mieux. Et grossir sur un des endroits de la page. En fait, c'est pour montrer qu'il y a une quarantaine de médiations pour les 8 titres. Des choses qui peuvent être très simples et d'autres peut-être un peu plus inédites qu'on a même construites ou inventées, comme des quiz, des jeux de cartes, etc. Mais surtout, là, les fiches sont, une fois de plus, faites de manière à leur faciliter le travail. C'est-à-dire que on a le niveau de difficulté qui en contient 3 niveaux en fonction du temps passé, etc. On a les objectifs, les publics, la jauge, est-ce qu'il faut ou pas des intervenants, la durée de préparation, mais aussi la durée de réalisation de la médiation. Voilà, tout un tas de choses pratiques dont on a besoin quand on veut mettre en place ce type de médiation. Et puis, le déroulé type, qui peut bien sûr évoluer en fonction de la manière dont on s'approprie ses fiches, avec aussi la possibilité d'aller sur des variantes ou d'aller plus loin dans ses médiations. Donc ça a permis, on s'en est rendu compte lors du prix qui a eu lieu de janvier à juin, que les bibliothèques qui ont participé à ce prix, qui travaillent avec des partenaires, qui reçoivent les auteurs des ouvrages de la sélection, etc., s'investissent beaucoup plus dans le nombre de médiations mises en œuvre. Et voilà, on est à peu près persuadés, elles nous l'ont dit, que ça a été aussi grâce à cette facilitation-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore juste une toute petite seconde pour, si tu reviens sur la slide, pour aborder un des derniers outils. Alors, je ne les montre pas tous, mais mes collègues donc, qui travaillent sur le facile à lire, donc Virginie Lescope et Anne-Laure Potvin, ont aussi créé de manière assez innovante des outils d'animation complètement virtuels cette fois, et non pas des malles et des valises qu'on emprunte, qui passent par une navette, etc. Là, on est sur une valise complètement virtuelle pour accompagner la démarche facile à lire autour des portraits. Et donc l'idée, c'est accessible en lien sur notre portail dans la rubrique des outils d'animation. Mais en fait, comme vous le voyez, toutes les médiations, tous les jeux, tout ce qui peut servir à faire des médiations autour de cette thématique du portrait, se trouve dans des fiches, là, clé en main, en format PDF. Et il y a quand même des jeux comme le brin de causerie qu'on a créé nous-mêmes, inspiré d'un jeu qui s'appelle Brin de Jazette, je ne sais pas si vous connaissez, qui incite les participants à parler, à discuter. Ceux-là, on les a fait imprimer et on les prête dans nos fonds faciles à lire en même temps à côté des collections. Il y a une chose que j'ai pas dite qui est assez essentielle aussi dans la sensibilisation. On en parlait de l'accessibilité numérique au tout début. Là, c'est pas le cas, mais ça manque. Pour le kit accessibilité en bibliothèque que j'évoquais lors de l'introduction, l'ensemble des fiches sont dans 2 formats. Le format PDF, qui est évidemment celui qu'on utilise le plus, mais aussi le format EPUB, parce qu'on essaye vraiment, on a eu des formations et des rencontres là-dessus, on essaie de sensibiliser les professionnels des bibliothèques d'Ille-et-Vilaine à rendre leurs documents en ligne, en tout cas le plus accessible possible. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, je reprends le fil et nous allons... retourner en Ille-et-Vilaine, mais donc à partir de cette belle matière que vous nous avez présentée, développer un peu plus, rentrer dans le détail des services que vous proposez pour accompagner ces collections. Donc je te laisse la parole.
Oui, donc la photo, je vais y revenir. Pour contextualiser déjà, je vais m'appuyer sur la bibliothèque d'Elsa Triolet, celle du centre-ville. C'est un bâtiment qui date de 1986, donc il est vieux. Et il n'est pas du tout adapté aux personnes à mobilité réduite. Donc, par exemple, nous avons une cafétéria qui est accessible par des escaliers ou un renfoncement dans le sol en secteur jeunesse. Donc, c'est super pour canaliser les tout-petits, mais il y a des bacs avec des albums dans ce renfoncement et les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas y accéder. Donc, comme vous l'avez vu avec notre meuble lecture adaptée, les collections ne sont pas mises forcément à hauteur de fauteuil et le mobilier est non modulable. Là, je ferai vraiment les aspects négatifs et après, ça ira mieux. Nous avons aussi un ascenseur qui est large, mais je pense qu'il a été pensé pour permettre mettre un chariot à livres dedans, mais il peut servir pour les fauteuils roulants. Malheureusement, cet ascenseur n'est pas accessible au public directement, il est dans les parties administratives. Donc il y a toujours besoin d'un accompagnant, d'un bibliothécaire qui accompagne les usagers. Mais voilà, nous travaillons sur d'autres aspects qui sont plus faciles à modifier. Donc comme la communication, nous sommes en train de mettre en place un outil de communication adapté au lecteur 10, donc en utilisant des polices de caractère accessible, donc comme Helvetica, Courrier ou Arial. Et nous avons aussi, bientôt, nous allons avoir un portail pour les bibliothèques de la ville de Bobigny. Et là, et dessus, nous pourrons mettre en avant nos ressources. Donc nous allons bientôt avoir un fonds facile à lire au secteur adulte. Mais je ne vais pas revenir dessus parce que tu en as déjà bien parlé. Et nous avons aussi l'arrivée d'une nouvelle directrice qui va permettre un nouveau projet d'établissement qui permettra de prendre mieux en compte ces problématiques. Pour les services, je vais vous parler des accueils de groupe qu'on propose à la bibliothèque. Donc, on a des partenariats avec différentes structures en secteur adulte et jeunesse, mais là, je vais vous parler vraiment de ce qu'on fait en jeunesse. Depuis plusieurs années, on travaille avec l'Institut médico-éducatif de Bobigny. Et donc, on accueille deux groupes d'enfants. D'enfants adolescents. On accueille ces enfants qui sont des jeunes porteurs de handicap psychique. Et les séances se déroulent autour du livre et de la lecture. Donc on a deux groupes de 6 enfants et un de 5 enfants. Ils viennent chacun une semaine sur deux, donc ce qui équivaut à peu près à 10 séances par an pour chaque groupe. Et ils sont accompagnés par leurs éducateurs spécialisés. Et ils viennent pendant une heure à la bibliothèque. Donc les objectifs de ces accueils, c'est de développer la découverte du livre et le plaisir de la lecture, favoriser l'écoute et l'expression des jeunes à travers le livre, développer les apprentissages et l'autonomie des jeunes, et favoriser l'appropriation de l'espace par les jeunes en devenant des usagers. Donc là, c'est le premier groupe qu'on accueille régulièrement. Et depuis 3 ans, on travaille aussi avec la MAS, qui est la maison d'accueil spécialisée. Donc là, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une maison d'accueil spécialisée, c'est un établissement qui propose un hébergement permanent à un adulte handicapé gravement, dépendant, qui n'arrive pas à réaliser seul les actes de la vie courante, comme se nourrir ou s'habiller. Donc le groupe est constitué de 5 ou 6 adultes qui présentent des troubles du spectre autistique et des troubles apparentés, comme des troubles graves de la communication, de la relation, de la socialisation et du contrôle de soi. Certains ont également des troubles de la vue. Donc avec ce groupe, on les accueille une fois par mois. Et il y a une nécessité de mettre en place des temps rituels afin d'instaurer un cadre, une base pour ce groupe. Par exemple, je les accueille, c'est moi qui fais les accueils, oui. Je les accueille avec une comptine en langue des signes française, parce que parfois certains communiquent comme ça avec leurs éducatrices spécialisées. Et on utilise aussi des livres tactiles ou nécessitant une manipulation pour permettre une écoute participative. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un livre d'Hervé Tullet. Il a été adapté par la maison d'édition Les Doigts qui rêvent. Et donc, c'est un livre tactile, puisque le livre d'Hervé Tullet est constitué de cercles, enfin de ronds. Et il y a des ronds poilus, des ronds tendus, des ronds tout doux. Voilà. Et donc, avec ce groupe, je leur demande de toucher et de manipuler le livre. Et enfin, pour terminer sur les services, on a un nouvel espace numérique à la bibliothèque Elsa Triolet et aussi à Émile Ayot. Il y a une petite partie dans la bibliothèque de quartier. Il a été mis en place en septembre 2022. Il est constitué de 3 parties, donc d'une partie avec des ordinateurs pour le public, des cabines d'auto-formation et un Fab Lab. Donc dans ce Fab Lab, on a des imprimantes 3D, une brodeuse numérique, une découpeuse vinyle et une graveuse laser. Et donc on a pu faire avec... donc là, j'ai pas la photo. Enfin, c'est une règle de lecture 10 sur la photo. Mais on les a faites en imprimante 3D qu'on met à disposition du public. Donc ces règles permettent aux personnes ayant des troubles 10 de suivre le texte ligne à ligne et ainsi d'éviter la confusion entre les autres lignes. Et donc, il y a un sens de lecture. Vous pouvez voir, il y a le feu vert vers le feu rouge. C'est un moyen mnémotechnique pour les enfants de savoir dans quel sens on lit. Et donc, on a mis ces règles faites à l'imprimante 3D au service public. Et elles sont présentées aux groupes qui viennent dans la section jeunesse. Et pour info, celles qu'on a mis au service public, donc elles sont faites en acide polylactique. Et donc, c'est de l'amidon de maïs. C'est biodégradable. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Si vous êtes comme moi, vous avez envie de poser plein de questions supplémentaires à Ophélie, on va vraiment essayer de garder un petit temps à la fin pour les questions, pour aller plus loin. Et là, on va enchaîner avec les services proposés à la BU de Lyon 1.
Oui, alors quand j'entendais ma voisine, je me disais quand même une des grandes spécificités sur l'accueil, c'est que nous, on a rarement des accueils de groupes identifiés, de populations qu'on va pouvoir qualifier, décrire, enfin, je ne sais pas comment dire ça élégamment, à l'exception de ce qui va se passer quand on fait la formation des étudiants, où là on accueille des groupes, mais par niveau, par cursus. Et en même temps que tu parlais, je réfléchissais, en fait, c'est une information qu'on n'aura jamais de la part des scolarités ou des enseignants avec lesquels on travaille quand on forme les étudiants à la recherche documentaire, pour aller vite, c'est les difficultés que peuvent rencontrer certains étudiants. C'est-à-dire que, mais ça fait partie des choses qu'on voudrait aussi mettre en place, c'est demander en amont aux enseignants avec lesquels on travaille et qui nous envoient leurs étudiants en formation, c'est est-ce que vous avez dans le groupe des étudiants à besoin particulier ? Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore forcément bien facile à faire, d'autant que les enseignants ne le savent pas forcément non plus. Donc voilà, c'était sur la question des groupes, je réfléchissais au lien. Sur les services, donc dans une bibliothèque universitaire, on a beaucoup plus de marge de manœuvre sur les actions que l'on peut mener, parce qu'on a aussi beaucoup plus d'outils, d'observation, d'analyse des usages qui vont nous permettre donc de rebondir. Et pour refaire le lien sur la thématique de cette première table ronde, c'est vraiment aussi là où l'universel et l'adapté se rejoignent le plus, parce que comme je le disais en introduction, ce qui va servir à certains étudiants pour lesquels on aura pensé un service spécifique servira de toute manière à tous. Les 9 bibliothèques de l'Université Lyon 1 sont toutes accessibles, sont toutes aux normes d'accessibilité PMR, sauf une qui est en étage et qui va bientôt changer de site, donc il n'y aura jamais de travaux de fait, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y en aura jamais. Mais toutes les bibliothèques sont aux normes d'accessibilité. Être aux normes, vous le savez autant que moi, ça ne veut pas dire que l'accès est simple, ça veut dire que la norme est respectée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un accès autonome à tout, mais bon. Là, après... on arrive dans des choses qu'on maîtrise très très mal. Tout ce qui va être bâti, vraiment accessibilité au bâtiment, c'est vraiment ce qu'on maîtrise le plus mal. Une fois qu'on est dans nos murs, on a un peu plus de marge. Donc ce qui est fait globalement pour favoriser l'accès aux services, c'est de développer un maximum de places de travail, puisque les étudiants travaillent beaucoup sur place. Que les bibliothèques sont ouvertes pour 3 d'entre elles à Lyon 1, 7 jours sur 7. Donc on travaille vraiment sur le confort et sur les espaces différenciés et diversifiés. Des places de travail différentes, des carrelles, des salles de travail en groupe, des fauteuils, des tables filantes. Enfin voilà, d'avoir vraiment le maximum de places de travail. Rien de très original en bibliothèque. Et puis des places qui sont sur réservation. Et là encore, on est dans l'universel et dans l'adapté, puisque c'est ouvert à tous, mais la possibilité de réserver sa place, ça peut être particulièrement pratique pour un étudiant qui va avoir besoin de beaucoup planifier son organisation, de beaucoup être dans la réflexion avant de faire quelque chose, et la réservation correspond à tout à fait à ça. L'autre aspect que l'on essaye de développer au maximum, c'est l'accueil par les personnels, par de la formation et beaucoup par de la sensibilisation. Le projet de service formation continue l'année dernière était une formation au premier secours en santé mentale. Donc on est une centaine à travailler à la bibliothèque universitaire et plus de 30 personnes ont été formées au premier secours en santé mentale, puisque c'est vraiment la première cause de difficulté que peuvent rencontrer nos étudiants. Donc, une formation qui nous a vraiment aidé à réfléchir, à avoir une culture commune sur la façon dont on peut se positionner pour accueillir des étudiants qui peuvent rencontrer des troubles psychiques. On s'appuie aussi, notamment pour la formation des usagers et pour l'accueil, sur le Vademecum de l'accompagnement des étudiants présentant des TSA, qui est sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Si vous ne connaissez pas ce Vademecum, je vous encourage à aller voir. C'est extrêmement bien fait, avec des petites mises en situation, qui sont des vraies situations réelles qu'on peut rencontrer dans l'enseignement supérieur, de comportement de personnes présentant des TSA. Et c'est simple, c'est parfaitement bien fait et c'est un bon outil pour accompagner les collègues. Malgré tout, la première difficulté, donc la première situation qui va empêcher les étudiants de se sentir bien à la BU, c'est vraiment une notion qui nous est chère. D'ailleurs, vous voyez, c'est le slogan qu'on a retenu pour notre grande enquête qu'on fait tous les deux ans. L'IPQAL, pour ceux qui savent ce qu'est l'IPQAL. Nous, on appelle ça la grande enquête de satisfaction. C'est beaucoup plus clair que de donner le nom propre. L'idée, c'est vraiment voilà, bien dans sa BU. Et dans l'enquête qu'on avait faite donc au printemps 2022 auprès des étudiants, ce qui revenait principalement et ce qui empêchait les étudiants de se sentir bien dans leur BU, c'était la proximité ou la promiscuité, on est entre les deux, qu'il pouvait y avoir dans les bibliothèques. Les bibliothèques universitaires sont des endroits extrêmement fréquentés. Là, en ce moment, fin novembre, on est en pleine période de révision. On est dans la plupart de nos bibliothèques à un taux d'occupation des places qui dépasse les 80%. Au-delà de la 80%, c'est plus un accueil de qualité pour nous. Ça veut dire que les étudiants, ils sont trop serrés, trop les uns sur les autres. Donc, une des réponses, c'est aider les étudiants à trouver quand même une place. Alors, ils vont pas trouver la place qu'ils auront choisie, ils vont trouver une autre place, mais à se sentir le mieux possible à la bibliothèque pour ne pas être gêné par le trop de monde, trop de bruit, trop de regards, trop d'observations, trop d'inconfort lié à la position assise prolongée. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc ce qu'on a fait, qu'on est en train de tester, on a mis ça en place depuis la rentrée, c'est de proposer des matériels pour aider les étudiants à davantage s'isoler, davantage être protégés du regard des uns et des autres. Donc on a acheté des paravents, alors la notion de paravent, ça parle pas du tout aux étudiants, des séparateurs de table que les étudiants peuvent installer où ils veulent. On leur propose des casques anti-bruit en prêt. On leur propose des matériels pour poser les documents ou les ordis qui vont faciliter leur lecture et moins leur fatiguer le cou, les yeux, la nuque. On a installé deux postes de lecture debout dans les bibliothèques les plus fréquentées. Ça, c'était une demande explicite des étudiants de pouvoir travailler en position debout, pas tout le temps assis en position d'équerre. Là, c'était une demande. On est en train de... Donc, c'est installé, ça, ces matériels sont installés depuis 6-7 semaines à peu près. Donc, de temps en temps, on va demander aux étudiants comment ça leur sert. On va faire des sondages un peu plus systématiques courant décembre pour recueillir les avis de nos étudiants. En bibliothèque universitaire, on peut bénéficier des crédits CEVEC. La CEVEC, c'est la contribution à la vie étudiante la vie étudiante et de campus. Donc c'est une contribution que paye chaque étudiant dans son inscription à l'université et qui est d'environ 100 euros par étudiant. Lyon 1, il y a 46 000 étudiants. Donc, vous voyez, ça fait une ressource financière assez importante. L'université lance des appels à projets une à deux fois par an auprès des services pour que l'on achète donc qu'on monte des projets qui vont répondre aux besoins de la vie étudiante et de la vie de campus. Les bibliothèques sont en plein dedans et on arrive à financer pas mal de choses avec les crédits CEVEC. Le projet 2023 qu'on a financé, donc des fauteuils, des paravents, des supports d'ordinateur, etc. Pour les 9 bibliothèques, on a eu une réponse à notre appel à projet à hauteur de plus de 40 000 euros. Donc voilà, c'est des sommes conséquentes qui permettent vraiment de faire avancer les dossiers. La difficulté quand on met du matériel à disposition, c'est que bibliothécaire toujours, on reste, on va prêter ces documents-là. On va prêter parce que quand on va prêter des stylos scanners, si on les prête pas, comment on va faire pour surveiller que les stylos reviennent? Comment on va faire des stats? Comment on va faire tout ça? Quand on prête du matériel un peu particulier, forcément, ça peut pas être fait avec les automates, donc il va falloir parler à des bibliothécaires. Ce qui peut être un obstacle pour pas mal d'étudiants. On le sait, si vous avez des idées pour trouver une autre solution, je suis preneuse. Pour le moment, on n'a pas d'autre solution. Nos séparateurs, ils sont pas en prêt, parce que là, quand même, c'est quand même très gros. Mais tout le reste, les casques anti-bruit, les supports d'ordinateur, tout ça est en prêt. Donc il y a un moment, il faut s'adresser aux bibliothécaires. C'est un obstacle, je ne sais pas comment faire autrement. Donc voilà, il y a quand même toujours des limites. Ce que vous voyez en ligne, c'est juste pour illustrer un peu mon propos. Comme toutes les bibliothèques, on a toujours le problème de l'accessibilité de notre portail. Si vous allez voir la mention d'accessibilité qu'il y a à la fin du site de l'université, ben vous verrez que c'est pas accessible, hein, que c'est pas conforme. Ben bon, voilà, comme pas mal de portails, y compris des établissements publics. Ce qu'on essaye de faire sur cette page-là, c'est de rendre plus visibles les services que l'on adapte pour les étudiants. Si vous allez voir la page, vraiment, si vous êtes très très curieux, si vous allez voir la page demain, vous verrez que l'accès a changé. On a mis la mention d'accessibilité en bandeau à la même hauteur que collection, service, formé, bibliothèque et culture. Voilà, c'est nouveau. C'est vraiment pour essayer de rendre la page plus visible, parce qu'en fait, je pense que cette page n'est consultée que quand je la présente. Donc, on a un vrai souci d'accès aux informations. Là aussi, si vous avez des idées, je suis preneuse. Merci.
Eh bien, merci à toi. On voit que comme pour les autres points, il y a toujours des points à améliorer et des perspectives. Alors, qu'en est-il en Ille-et-Vilaine ?
Je me rends compte que moi, dans la partie service, je vais parler, entre autres, je vais parler de deux choses. Et le premier dispositif dont je vais parler, j'aurais aussi bien pu le mettre dans la partie d'avant, en fait, dans les collections. Mais j'espère que vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis là. Bon, on verra avec le petit test.
Que tu as présenté dans les collections aurait pu être un peu dans les services, finalement, aussi, que tu rends au bibliothécaire.
Mais c'est ce qu'on s'était dit aussi quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'on est resté sur cette séparation collection, service, action culturelle. Bon, en sachant que ça sera peut-être de moins en moins aussi séparé et que bah, finalement, les collections, c'est un des services.
Oui, voilà, tout ce qu'on fait, c'est des services qu'on rend. C'est voilà. Un peu artificiel, mais ça permet de structurer quand même un peu l'échange.
Donc, en Ille-et-Vilaine, on propose depuis 2021 le dispositif qu'on a appelé, nous, DESI dans vos bibliothèques, qui reprend un nom qui vous dit peut-être quelque chose, en partenariat avec l'association Valentin Ahuy. Alors, l'idée, c'est que les bibliothèques du département créent ou développent une offre de collection accessible, mais autour d'un véritable service. D'un véritable nouveau service, en tout cas. Alors, l'enjeu est de taille, hein, on en a parlé. Rendre visible, faire connaître, diffuser l'offre adaptée quand elle existe. Et là, en l'occurrence, il s'agit de celle de l'association Valentin Ahuy, qui est une des plus importantes médiathèques sonores en format audio DESI, en tout cas en France, avec celle de la BNFA. Donc, on déploie le dispositif de manière progressive autour d'appels à partenaires qui ont lieu maintenant tous les deux ans. On a à ce jour 104 bibliothèques, je vous ai pas dit, mais il y a 280 bibliothèques dans le département d'Ille-et-Vilaine pour à peu près 1 million d'habitants. Donc 104 bibliothèques aujourd'hui sont partenaires de ce dispositif, et la raison pour laquelle on n'a pas juste proposé en fait ce service-là sur notre portail et puis s'en saisit qui veut. C'est qu'on a vraiment par la signature en fait de convention entre les bibliothèques et nous la volonté d'accompagner le mieux possible les bibliothèques dans le développement de ce service et l'accompagnement qu'elles vont faire elles-mêmes des publics bénéficiaires. Et dans ces modalités d'accompagnement, donc on propose une formation à chaque nouveau groupe de bibliothèques partenaires. Donc tous les deux ans, on refait intervenir la médiathèque de Valentin Ahuy pour une journée de formation complète. On propose un kit de communication clé en main pour les bibliothèques, à la fois numérique et ou papier, selon leurs souhaits et leurs désirs. Et le dépliant qui permet d'annoncer ce nouveau service dans les bibliothèques pour les habitants a été aussi adapté en facile à lire et à comprendre par nos soins et la collaboration pour avoir le logo Falc d'un ESAT à proximité de Rennes. Donc, une formation, un kit de communication clé en main, des ateliers techniques qu'on propose après la formation, en fait, en fonction des besoins des réseaux ou des bibliothèques partenaires, parce que bien souvent, on s'est rendu compte que entre la formation initiale et la mise en œuvre et l'ouverture du service sur leur territoire, ils ont un peu oublié tout ce qu'ils ont vu pour la pendant la première journée de formation. Donc nous, on repropose à la demande une demi-journée où on voit vraiment la prise en main du matériel, notamment le lecteur Victor Reader, les applications de lecture et puis bien sûr la plateforme EOL, à la fois en mode professionnel mais aussi comment leurs usagers pourront l'utiliser. On prête également à tous ses partenaires 40 valises DAISY dans lesquelles il y a un lecteur Victor Reader et une trentaine de documents audio DAISY. Donc à travers toutes ces modalités, on insiste vraiment sur la nécessité pour les bibliothèques qui vont participer et développer ce service, sur la nécessité d'individualiser l'accueil et l'accompagnement des publics vers le service. Sur la question, alors ça doit être du coup mon deuxième lien sur le PowerPoint. Donc sur la question des services, je voulais aussi aborder la signalétique accessible. On a déjà évoqué la signalétique des collections, on a parlé de communication. Et je voulais l'évoquer à partir de la démarche et l'aboutissement, la réalisation des pictogrammes bretons. Je pense qu'on peut dire ça au départ. Donc là, on n'est plus du tout sur le portail de la médiathèque départementale. Vous avez remarqué, on est sur Livre et Lecture en Bretagne, hein, donc qui est effectivement notre centre régional du livre, hein, un EPCC de Bretagne. On a contribué à la démarche et on en fait la promotion dès qu'on peut. Notamment, ça a été l'objet d'une des rencontres accessibilité dont je vous parlais au départ, celle de septembre 2022. Alors, très rapidement, l'historique, c'est qu'il y a eu un groupe de travail piloté par Livre et Lecture en Bretagne qui a commencé à se réunir en 2014. Il associait des bibliothécaires, mais aussi des associations représentant des personnes en situation de handicap et notamment mental ou des personnes qui avaient des déficiences auditives. Alors l'objectif de toute la démarche, c'était, en travaillant sur une signalétique plus accessible en bibliothèque, d'améliorer évidemment l'accès au bâtiment, mais aussi l'orientation à l'intérieur des locaux pour les personnes qui en avaient besoin, de mieux informer aussi sur les services et la diversité des services proposés à l'intérieur des médiathèques et pour les professionnels de disposer de supports de médiation entre leur public et leurs services. Des supports adéquats et validés par un groupe de travail qui a quand même travaillé de 2014 à 2019. Ça a abouti à la proposition par le GT de 27 besoins de pictogrammes qui se répartissent en trois grands groupes, les espaces, les actions et les documents. On remarquera que dès qu'on s'adresse au grand public, avec ou pas des besoins spécifiques, le terme de collection ne veut plus rien dire à personne. Les gens parlent de documents. Donc c'est le terme qui a été retenu. Et la proposition de réalisation de ces 27 pictogrammes a été faite par une graphiste morbihanaise, Hélène Gerbert, qui, je connais pas bien tout son travail, mais je ne sais pas si elle le faisait déjà avant. En tout cas, depuis ça, elle intervient maintenant aussi de manière régulière sur la signalétique en médiathèque, pas forcément du coup spécifiquement pour une signalétique accessible ou dit comme telle, mais avec toute l'expérience qu'elle a pu acquérir en travaillant sur cette commande-là. Moi, j'ai vu deux réalisations qu'elle a faites en Ille-et-Vilaine pour des nouvelles médiathèques qui viennent d'ouvrir. On voit bien qu'elle a pris à son compte cette question de l'accessibilité de la signalétique en médiathèque, même sortie de ces pictogrammes. Je voudrais juste terminer en disant que c'est un travail breton, mais qui a vocation à être, en licence libre. C'est du bien commun professionnel. Sur le site, il y a une charte qui vous donne un certain nombre de recommandations pour utiliser ces pictogrammes, mais vous pouvez du coup, quand vous signez la charte, les télécharger. Donc j'invite évidemment tous ceux qui réfléchissent à l'accessibilité de sa signalétique, de leur signalétique, à s'en emparer. Voilà.
Eh bien, merci pour cette invitation. On va aborder la troisième partie de cette table ronde en passant aux actions culturelles qui sont mises en place dans chacun des établissements. Je vais demander à mes intervenantes de faire vite pour vous laisser du temps de poser des questions. Et en même temps, si elles font vite, il y a des choses qu'elles diront pas, donc il y aura plus de questions. Donc on va juste essayer d'être très efficace pour respecter le timing. Et on retourne à Bobigny.
Je vais raccourcir un peu mon intervention. Juste à Bobigny, nous proposons donc, je vais faire très vite, des ateliers et des spectacles à destination des publics empêchés ou handicapés. Donc, nous avons déjà organisé un spectacle familial bilingue LSF français avec la compagnie Artsign. Et alors, promis, j'ai pas d'action chez eux, mais on a travaillé encore avec la maison des doigts qui rêvent, la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, et on a proposé des journées d'atelier parents-enfants. Donc, c'est à partir de 6 mois et pour les enfants, et ça permet de sensibiliser les publics à la différence, au handicap et spécifiquement à la déficience visuelle. Donc, il y a 4 ateliers qui peuvent être proposés pour différentes tranches d'âge. Et les enfants découvrent le braille, ils ont des lunettes simulant la cécité ou d'autres déficiences visuelles. Donc, c'est très intéressant et ça a beaucoup plu aux parents et aux enfants. Et c'est ça qui nous a permis aussi d'axer notre fonds lecture adaptée avec des collections adaptées à ces enfants. Et aussi, du 27 février au 2 mars prochain, on va avoir notre première édition de la Semaine des langues et on va proposer un spectacle en LSF avec l'International Visual Theatre. Je le dis en français parce que je vous épargne mon accent anglais. Et ce sera un conte chinois qui s'intitule Le Prince Tigre. Et donc voilà, si jamais vous êtes près de Bobigny, vous serez les bienvenus. Il y aura des animations toute la semaine. Et je vais terminer avec cette photo qui, je pense, vous intrigue, j'espère. Avec le Fab Lab de notre nouvel espace numérique, on a une volonté d'un espace qui soit le plus inclusif possible et on a pensé avec l'équipe à une création participative de manettes de jeux vidéo qui serait adaptée aux personnes malvoyantes et aux personnes souffrant de problèmes de préhension. Donc, vous voyez la première photo, le bloc noir, ça a été fait à l'imprimante 3D. Ensuite, la deuxième photo, c'est avec on a rajouté une carte Meki Meki. Donc, pour décrire ce qu'est une carte Meki Meki, c'est un clavier. Ça remplace un clavier et ça fonctionne avec la conductivité. Donc, ça se branche avec un câble USB à l'ordinateur et il y a des petits câbles avec des pinces crocodiles qui se branchent à des objets conducteurs. Donc, ça peut être de la pâte à modeler comme sur la photo, mais ça peut être aussi des fruits et des légumes. Et donc, ces touches remplacent le clavier. Donc, on a une prise terre en vert qui permet la conductivité et les 4 autres touches qui sont les touches directionnelles. Donc, c'est en maintenant le contact avec la prise verte qu'on actionne les autres touches. Et donc là, je vais demander de lancer la petite vidéo pour vous montrer la manette en action. Donc voilà, là, c'est le cache qui permet de cacher la carte Meki Meki sur la dernière photo. Et donc, on utilise la manette. Et voilà. Ensuite, on a la deuxième vidéo. Là, c'est pour c'est une option un peu plus sympa. Voilà. Donc, on peut jouer à Tetris avec cette manette. Et on pourra en faire d'autres. Là, on a dessiné des flèches pour que ce soit plus visuel pour montrer pour la démonstration. Mais on pourra faire des touches en braille. Donc, piquer les touches et mettre du langage en braille dessus. Voilà, merci beaucoup.
Merci à toi. Vous pouvez applaudir. Hein.
On applaudit aussi les collègues qui ont participé à l'élaboration de cette manette.
Très impressionnant. Oui, il y avait ça. Et donc à Lyon.
Donc, je vais pouvoir aller très vite, du coup. Ce qui concerne l'action culturelle dans les bibliothèques universitaires, donc fait bien partie des missions de promotion de la culture scientifique et technique. Et on travaille toujours en partenariat avec les enseignants-chercheurs de l'université et avec des acteurs culturels locaux. Pour autant, très clairement, le champ des manifestations culturelles n'est pas le champ d'activité qu'on a prioritairement investi. D'abord parce qu'on n'y a pas tellement pensé en amont, et surtout parce qu'on se focalise pour le moment plutôt sur des domaines pour lesquels on va avoir une meilleure interprétation de la demande ou une demande explicite, où on va mieux savoir comment agir. Néanmoins, donc nos manifestations culturelles sont, pour aller très vite, de trois ordres, des expositions, des conférences et des ateliers avec deux gros temps forts annuels. La fête de la science à l'automne, donc une thématique nationale qui va être déclinée, c'en est une des expositions là, avec une exposition et des conférences. Et puis le festival Science et Manga qui a lieu chaque année au printemps et qui allie un thème de manga et une discipline scientifique, puisqu'on a un fonds de manga extrêmement important dans notre bibliothèque de loisirs. Donc les conférences, les expositions, par définition, sont assez visuelles et souvent multimédia, mais on n'a jamais d'audio-description de ce qu'il va y avoir dans les vitrines, par exemple. Ça, c'est pas du tout fait. Les conférences que l'on organise ne sont non plus jamais ni sous-titrées, ni traduites en LSF, en tout cas en direct, mais comme elles sont enregistrées et diffusées sur la chaîne YouTube de l'université, il y a quand même des sous-titrages possibles, mais a posteriori. Les manifestations culturelles, c'est vraiment l'ouverture de l'université sur la cité. Donc on s'adresse bien à un grand public, mais on n'est jamais dans des parcours adaptés. Alors j'ai cherché qu'est-ce qu'on adapte. La seule chose qu'on va adapter, c'est qu'on va avoir des accueils de scolaires dans nos expositions. Ce qui est déjà une forme d'adaptation pour nous, c'est-à-dire qu'on va présenter des expositions scientifiques qui sont faites pour le grand public à un public de scolaire. Donc on est capable de faire des adaptations, mais vraiment, c'est pas le domaine qui est le plus investi chez nous.
Okay. Merci. Bon, effectivement, c'était rapide. Et donc là encore, des perspectives. Donc.
Oui.
Et donc on va finir avec, avec cette action déjà ancienne, n'est-ce pas ?
Déjà ancienne. Ouais. Et juste avant, parce que j'ai rajouté ça après vous avoir envoyé les slides pour le PowerPoint, mais ça tombe bien, j'ai pas le temps, donc je ne vais pas détailler. Mais je voulais juste vous dire quand même que dans le kit accessibilité en bibliothèque, il y a une fiche spécifique sur la mise en place de l'action culturelle en direction des personnes en situation de handicap pour les bibliothèques. Voilà. Donc je ne la détaille pas, mais on l'a vraiment beaucoup travaillé pour essayer d'aborder toutes ces questions et de l'adaptation et de la compensation, mais aussi des actions spécifiques, de la mixité des publics, etc. Donc oui, moi ce dont je voulais vous parler, c'est de notre seule et dernière action culturelle. En fait, on en a eu plusieurs pendant des années et c'est le dernier dispositif qu'on porte en propre, c'est le Prix Ado Rennes Ille-et-Vilaine qui fête ses 30 ans cette année et qui se trouve doté d'un volet inclusif depuis 2007, c'est-à-dire l'adaptation en version audio DAISY des 10 titres de la sélection annuelle. Alors ça a été créé, cette adaptation, en 2007, et vu l'ampleur que ça a pris, ça a été pris en charge par la médiathèque départementale en 2014. Donc depuis 2014, on prend en charge l'adaptation sonore audio DAISY des 10 titres de la sélection annuelle. On fait travailler des comédiens, c'est en voix humaine, et donc on rémunère des comédiens professionnels. Donc c'est un énorme travail de préparation des livres pour évidemment arriver à une structuration du fichier numérique qui corresponde aux fonctionnalités du DAISY. Mais ce que je voulais vous dire, en dehors du fait que voilà, on a plus qu'une seule action culturelle et on a pensé à son adaptation au départ pour le Prix Ado, pardon, c'est la fin de la table ronde et j'oublie tous les détails. Le Prix Ado, ça s'adresse aux 13-15 ans. C'est coporté par le département, la ville de Rennes, avec le réseau des médiathèques de Rennes, une librairie spécialisée jeunesse qui s'appelle la Courte Échelle à Rennes et le réseau Canopée pour l'éducation nationale. C'est donc un dispositif EAC, éducation artistique et culturelle. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc depuis 2014, on proposait les versions adaptées uniquement sur CD gravés, à prix coûtant. Et grâce à notre rencontre extrêmement fructueuse avec l'association Valentin Oui, en plus du partenariat sur le dispositif dans vos bibliothèques, on a un nouveau partenariat pour la mise à disposition des livres adaptés en version numérique sur la plateforme EOL chaque année. Alors ça n'arrive pas tout à fait dans le calendrier du prix initial, donc l'inclusivité est pas encore optimale, mais on y travaille. Le prix pour les 13-15 ans, il court de septembre à mai, et on arrive entre le travail avec les comédiens, la transformation des MP3 en DESI, la vérification, le dépôt sur Platon, la récupération par la VH sur EOL, on arrive à les mettre en ligne fin octobre, début novembre. Mais on a gagné beaucoup de temps parce que quand on avait seulement la version sur CD, cette version adaptée n'était disponible qu'en janvier, ce qui était vraiment complètement raté pour dire aux jeunes qui étaient empêchés de lire, vous avez une version adaptée pour vous, parce qu'ils avaient vraiment très très peu de temps pour l'écouter. Et donc au départ, c'était une version adaptée pensée pour les jeunes empêchés de lire essentiellement pour des déficiences visuelles. Aujourd'hui, on voit bien que le gros des jeunes ont besoin de ces adaptations, c'est les jeunes 10, et c'est aussi ce que nous font remonter les profs doc et les professeurs de français qui sont investis dans ce prix. Voilà.
Wow, merci beaucoup. Alors, merci aussi d'avoir respecté le temps et d'en avoir laissé pour notre auditoire qui, je pense, va avoir des questions. Oui. Merci de vous présenter avant de poser votre question, d'accord?
C'est moi d'abord. Ok, bonjour. Donc, moi, je suis Anne-Laurence Gauthier. Je travaille à la Bibliothèque Saint-Éloi à Paris, et donc dans les bibliothèques pour le sourd. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Ophélie au sujet des collections et le souhait de développer des collections en langue des signes française. Et peut-être rappeler ou informer pour les personnes qui ne le savent pas, que les pôles sourds de Paris travaillent depuis 10 ans maintenant sur des adaptations en langue des signes française qui sont déposées sur la plateforme Platon et que vous pouvez télécharger dans vos bibliothèques. On y a adjoint également des recommandations. Alors évidemment, on est dans un cadre restreint puisqu'on est dans le cadre de l'exception handicap et qu'on ne peut pas prêter ces documents à tous les publics, mais uniquement au public en situation de handicap. Mais bon, c'est déjà ça. Et aujourd'hui, il y a, je crois, 21 titres, donc albums jeunesse, qui sont accessibles et sur la plateforme. Et on espère bien continuer à offrir d'autres titres, même si c'est un travail conséquent et que c'est un petit peu... c'est pas facile à faire avancer. Voilà.
Merci.
Bonjour, moi je suis Maud Ehrenfeld, je travaille dans les médiathèques de Champigny-sur-Marne dans le 94 et on a un gros projet, deux gros projets même de construction parce que, un peu comme Bobigny, on part de très très loin en termes de bâtiments, mais pas que. Et du coup, j'ai une question sur la formation premier secours en santé mentale dont vous avez bénéficié à l'Université Lyon 1. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et notamment sur un organisme de formation ou comment ça a pu être monté? Parce que c'est aussi des problématiques que rencontrent les collègues en lecture publique, qui sont parfois un peu désarmés face à ces publics un peu, parfois, inattendus dans leur réaction.
Alors, l'exemple de Lyon 1 ne va pas tellement vous éclairer dans ma réponse pour le moment, parce que on a été formés, nous, en interne, par des collègues du SSU, du service de santé universitaire, qui ont elles-mêmes été formées pour être formatrices premier secours en santé mentale. Et on avait beaucoup tenu à être formés par nos collègues du SSU, puisqu'on a affaire au même public et il y avait vraiment une construction de partenariat importante. Donc je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui pourront mieux vous répondre que moi. Après, la formation premier secours en santé mentale, c'est une formation, c'est comme les sauveteurs secours secouristes du travail en santé mentale. Enfin, c'est vraiment des formations équivalentes et qui sont proposées par beaucoup d'organismes de formation autour de toutes des questions sociales et de santé. Donc, je ne vais pas beaucoup pouvoir vous aider. À ma connaissance, mais je peux me tromper, c'est plutôt une formation qui est anglo-saxonne au départ. Enfin, c'était l'impression que j'avais eue dans la formation qu'on a suivie, c'est que les exemples parfois étaient un petit peu, on avait pas mal de choses qui étaient un peu très anglo-saxons et même, je crois, très australiens. Donc des fois un petit décalage culturel sur certaines situations, mais bon, rien de très gênant. Mais je pense que vous aurez pas beaucoup de difficultés à trouver des organismes de formation, mais je ne pourrais pas vous en indiquer. Désolée.
Je peux peut-être ajouter un élément que j'aurais aimé plus précis, mais le nom de l'association m'échappe. On a invité justement, nous, une association qui propose, alors dans le secteur plutôt Grand Ouest, hein, ce type de formation, à une des rencontres accessibilité sur l'accueil justement des personnes en situation de handicap psychique en bibliothèque. Donc, je vous renvoie à nouveau vers le CAB, le kit accessibilité, où il y a une fiche à la fois sur les semaines d'information sur la santé mentale et sur les rencontres accessibilité. Vous avez un des compte rendu, mais si mes collègues, je pense qu'elles suivent à distance, elles peuvent peut-être mettre dans le chat le nom de l'association qui m'échappe et c'est bien dommage.
Ouais, vous pourrez retrouver sur Facebook. La BPI va aussi mettre en place ce genre de formation, donc on pourra vous, si ça se passe bien, transmettre le nom de la structure qui nous formera.
J'ai une question aussi.
Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marjorie Alexandra Bellini, je travaille pour le réseau des médiathèques de Massy. L'association dont vous parlez, c'est l'ADPAY en local et l'UNAPAY en niveau national. UNADEIP, si je ne me trompe pas en les plans. Désolée, j'avais la réponse, donc je me suis permise de compléter. Et j'avais une question pour Madame Bertin au niveau du mobilier pour le facile à lire et à comprendre, parce que nous, on est en train de monter un fonds facile à lire et à comprendre chez nous. Et on s'est posé plein de questions de mobilier. Et en réalité, j'ai l'impression qu'on a tous le même mobilier. Je trouve ça un peu dommage. Et je me demandais si parmi vous ou dans la salle, il y avait des personnes qui avaient des suggestions à nous faire à ce sujet. Merci beaucoup.
Alors, nous, on a eu... Alors, juste peut-être dire que ce n'est pas le mobilier facile à lire et à comprendre. Il y a beaucoup de confusion entre le facile à lire et à comprendre et le facile à lire. Le facile à lire et à comprendre, c'est une démarche d'adaptation de la communication des documents qu'on produit, et pas seulement en bibliothèque, en entreprise, en administration. Le facile à lire, c'est vraiment une démarche centrée sur l'accès au contenu des livres. Alors, nous, on a eu deux mobiliers différents qu'on prête aux bibliothèques. Dès 2014, on a travaillé avec... eh bien, je ne sais plus décidément, mais ça fait longtemps, en plus, j'y étais pas... Je me trouve plein d'excuses. On l'a gardé jusque l'année dernière, aujourd'hui, en prêt en tout cas. Maintenant, il a intégré les antennes avec des magasins de la médiathèque départementale et donc il accueille nos fonds faciles à lire. Et on avait envie justement de renouveler parce que bon, il nous satisfaisait peu et on le retrouve dans d'autres médiathèques départementales. Hein, je l'ai déjà vu. L'atelier des possibles. Voilà, l'atelier des possibles. Il n'était pas sur roulette. Donc sur le côté modularité, légèreté, je le déplace facilement pour trouver le meilleur endroit, c'était pas top. Un peu mastoc, un peu lourd. Donc là, on a fait une consultation l'année dernière auprès... Alors il faut toucher quand... vous cherchez à travailler sur ce mobilier, il faut toucher à la fois des designers, des gens qui travaillent le carton. Faut vraiment toucher large pour obtenir, on va dire, des projets et des réponses intéressantes. Donc nous, c'est un poisson pilote, l'atelier de design un poisson pilote qui a eu le marché et qui nous a proposé... un mobilier qui correspond vraiment à nos besoins, aux besoins du facile à lire, mais aussi aux besoins de transport facile sur l'ensemble du département, puisqu'on le livre dans les bibliothèques quand on a besoin. Donc, vous, sur la page de notre portail, vous trouvez toutes les infos sur ce mobilier. Il est très coloré, très simple, et il est conçu sous le principe des boîtes gigognes, en fait. C'est-à-dire que le mobilier, une fois qu'on l'a tout renfermé, toutes les boîtes les unes sur les autres, il fait sa propre caisse de transport sur roulette.
Vous m'entendez? Ah oui. Ouais. Voilà, merci. Je rebondis sur ce qu'a dit Isabelle. Dans les médiathèques de Bobigny, on est en train de mettre en place un fonds facile à lire et on travaille avec la Maison de la Culture du 93. Et il y a une apprentie en scénographie qui est en train de nous construire un meuble facile à lire. Voilà. Donc si jamais ça peut aider, si vous avez quelqu'un, enfin une autre association, quelque chose comme ça près de chez vous, enfin près de vos bibliothèques, vous pouvez leur demander de l'aide. Voilà.
Et c'est exactement les compétences que je n'ai pas dit, mais c'est la première artiste qui nous a créé le premier mobilier, elle était scénographe. Parce que c'est vrai que ce n'est pas juste un meuble, en fait. On leur demande de concevoir un espace à l'intérieur de la médiathèque. Donc c'est vrai que les scénographes, autant que les designers, peuvent être intéressants pour y réfléchir.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nathalie Gervaud du réseau des bibliothèques des Bertranges dans la Nièvre. Je voulais juste revenir sur une association qui peut être aussi une vraie ressource, c'est l'UNAFAM pour les premiers secours en santé mentale. Et puis je voulais aussi partager avec vous une ressource que je trouve extrêmement importante et qui n'est pas assez évoquée. Il y a une association qui s'appelle IBI, que vous connaissez peut-être, I-B-B-Y. Et cette association, c'est une association internationale qui, tous les deux ans, donc crée une bibliographie et de livres pour les enfants en situation de handicap. C'est une ressource extraordinaire et vous pouvez aller sur internet et voir leur sélection. Elle est incroyable. Il y a donc tous les deux ans, je ne sais plus, il y a une quarantaine de livres du monde entier qui sont sélectionnés et qui sont pour les enfants en situation de handicap. Voilà.
Bonjour. Oui, ça marche. Je suis Sophie Gint, chargée de partenariat à l'INSEI. Alors l'INSEI, qu'est-ce que c'est? On est là. Je vois qu'on est là et il va falloir que je dise à l'équipe de com que c'est pas très clair. Donc on est partenaire. En fait, l'INSEI, c'est l'ex-INSHEA, Institut National Supérieur de Recherche et de Formation pour l'Éducation Inclusive. On est un établissement universitaire, on dépend du ministère de l'Enseignement Supérieur et on forme essentiellement les enseignants à l'éducation inclusive avec l'accueil d'élèves en situation de handicap, mais on forme aussi tous les personnels. On a tout un catalogue de formation initiale et de formation continue concernant tous les troubles, tous les types de handicap. Et on a un laboratoire de recherche. Et je vois que j'ai des collègues enseignants-chercheurs qui font partie du conseil scientifique de réalisation de cette plaquette. Et donc, ce laboratoire de recherche travaille autour de tout ce qui est lié à l'inclusion en matière dans les domaines scientifiques, de la sociologie, de la psychologie, des sciences de l'éducation. On a un observatoire des ressources numériques adaptées et on a un énorme pôle ressources avec une grosse bibliothèque, un gros centre de documentation qui est entièrement dédié à l'inclusion au sens large. Donc c'est vraiment la thématique de ce centre de ressources. On organise des journées d'études. L'année dernière, on a fait une journée handicap et littérature jeunesse avec Marie-Aude Muraille et Tito qui sont venus participer. Donc, et on a aussi également des coopérations avec des tas de au niveau national et au niveau international. On travaille beaucoup avec des universités et des ministères de différents pays pour construire l'éducation inclusive. Donc, je vous conseille de prendre contact avec moi. Je suis là toute la journée si ça vous intéresse. Mais on peut vraiment monter des formations, vous proposer des formations, vous inviter à venir suivre des formations chez nous. Je pense qu'on est vraiment l'établissement avec une expertise très poussée sur toutes ces thématiques.
Je crois qu'il y a une dernière question.
Il y a une dernière question là-haut. Enfin, dernière. Oui, on va devoir s'arrêter.
Merci. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une... je rebondissais sur le mobilier facile à lire, là, ce qui est, les échanges qu'il y a eu dans la salle. Donc moi, je suis Mathilde Buzine, je suis chef de projet illettrisme et accessibilité pour la médiathèque départementale du Nord et je fais aussi partie de la commission accessibilité de l'ABF. Pour les mobiliers faciles à lire, il y a aussi une piste qui peut être intéressante, c'est de travailler, de faire concevoir le meuble avec, avec des publics qui sont potentiellement concernés directement par le facile à lire. J'ai des beaux exemples dans le département du Nord, notamment une médiathèque qui a fait appel à l'école de la deuxième chance, où les élèves ont designé le meuble et qui a été réalisé par les travailleurs d'un ESAT sur le territoire même de la médiathèque. Et voilà, c'est aussi une super option pour se lancer dans le dispositif en incluant déjà les publics potentiellement concernés qui vont après avoir leur travail très valorisé et être les premiers à faire de la médiation autour de ce meuble.
Oui, ben voilà, c'est exactement ça. On voit bien que prendre un axe et le structurer, ça permet vraiment d'avoir un projet très cohérent, très complet, et ça résonne tout à fait avec ce qui nous a été présenté.
J'allais complémenter un peu ça. Moi, j'ai eu l'expérience, parce que je suis responsable du fonds FAL à la BPI, d'une petite bibliothèque, alors là, c'est en Normandie, qui a utilisé les lycéens d'un lycée technique qui ont fabriqué... tout le mobilier du fonds FAL. Et après, en plus, il y a une inauguration. Et c'était un public qui venait pas dans cette bibliothèque et après est venu dans cette bibliothèque avec le partenariat qui avait été fait avec cette petite médiathèque d'une toute petite ville. Voilà.
Eh bien, merci de terminer sur ce bel exemple. Vous allez pouvoir... Non, tu veux dire quelque chose ? Oui, allez.
Très rapidement, je voulais revenir sur la différence facile à lire et à comprendre, sur laquelle on est revenu, et puis parce qu'on en a entendu beaucoup parler, juste pour dire que sur le site de l'ABF, dans le bulletin numéro 2, la commission accessibilité a refait un point sur la différence entre les deux, et parce qu'on constate effectivement qu'il y a pas mal de confusion qui s'explique par beaucoup de choses, mais si vous voulez tout comprendre sur le facile à lire et à comprendre, c'est dans le bulletin numéro 2.
Et c'est facile à lire et à comprendre.
Et c'est facile à lire.
Merci. Merci à vous.
Merci. Et...